Le journal avec vous, Aurélie Kiefer, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Elle a plus de 21 000 amendements à examiner sur la réforme des retraites. Comment la commission spéciale de l'Assemblée va-t-elle s'en sortir? Pierre Neveu suit pour nous le travail des députés. La grève à Radio France est suspendue jusqu'à début mars. Le temps de voir comment évoluent les négociations. Nous ferons le point avec Éric Chavroux. Ils ont 11 mois pour s'entendre sur leurs nouvelles relations. Le Royaume-Uni et l'Union européenne affichent pour l'instant des positions assez éloignées. Nous irons à Londres. Et puis le nouveau coronavirus apparu en Chine est source de crispation entre Pékin et Washington. Analyse d'Olivier Poujade. Ils ont commencé à examiner en commission le projet de réforme des retraites. Les députés ont du pain sur la planche puisque 21 661 amendements ont été déposés par l'opposition, déterminée à compliquer la tâche de la majorité. La commission spéciale de 71 députés s'est tout de suite penchée sur le financement de la réforme, Pierre Neveu.
Oui, on est entré cet après-midi dans le cœur du débat puisque le premier amendement porté par les Républicains soulevait la question du financement de la réforme, ou plutôt de l'absence de financement dans le texte, d'où cette première flèche décoché par le député LR Gilles Carrez à destination de Laurent Pietraszewski, le monsieur retrait du gouvernement.
Toutes les réformes que les majorités de droite et du centre s'honorent d'avoir conduites ont été motivées par des raisons financières. Or, nous sommes là dans une situation tout à fait paradoxale, à savoir qu'on engage l'examen d'un texte qui ne comporte pas les éléments financiers absolument indispensables.
Et l'ancien ministre du budget, le républicain Éric Woerth, d'enfoncer le clou.
Le projet que vous présentez aux Français, il est incompréhensible. Ce que vous nous présentez, c'est un texte incomplet. C'est du jamais vu.
À gauche, où l'opposition au texte est radicale, on dénonce également l'examen d'un texte dépourvu de l'argument financier. Mais il y a une raison à cela, selon le député communiste Sébastien Jumel. Le gouvernement a déjà choisi son camp.
Au bout du compte, ce qui va vous mettre d'accord, c'est les déclarations du MEDEF devant notre commission spéciale. Le président du MEDEF qui dit « je suis prêt à discuter de tout ». En fait, je ne suis prêt à discuter que de la manière dont on va mettre à contribution les salariés pour financer votre mauvais projet.
Et dans cet examen de texte marathon, les députés France Insoumise ont délibérément choisi le camp de l'obstruction en déposant 19 000 amendements et chaque mot sera soumis à débat, comme le souligne le député Alexis Corbière.
Il y a erreur sur la marchandise dès le titre de votre projet de loi. Il nous semblerait que la sincérité des choses s'exprime dans la formulation que nous vous proposons. Ne mentons pas aux Français. On va avoir l'occasion de présenter tous nos amendements. Notre formulation, elle mérite au moins de dire les choses telles qu'elles sont.
Toutes les armes seront utilisées pour retarder la décision finale, assure Jean-Luc Mélenchon. Il doit normalement, ce texte, arriver dans l'hémicycle dans 2 semaines, le 17 février.
Et le collectif SOS Retraite reste mobilisé contre la réforme. Il a organisé une nouvelle manifestation interprofessionnelle aujourd'hui à Paris avec 18 professions libérales, des comptables, des médecins, des infirmiers. Mais la présence des avocats a éclipsé les autres revendications, Pauline Renoir.
Oui, une marée de robes noires dans Paris dense et très bien organisée. Les barreaux de chaque région ont fait le déplacement et leur ambition demeure inchangée depuis 5 semaines, faire plier le gouvernement malgré l'examen du texte en ce moment même par les députés. Myriam est avocate à Bobigny.
Je pense que c'est dans notre ADN, on est toujours très motivés. Depuis la 5e semaine maintenant, on est très inventifs. On a plein de façons de se révolter, de se mobiliser. Tant qu'on n'aura pas le retrait du projet, on continuera.
Certains manifestants disent avoir confiance en le travail législatif des députés de gauche. Pour Christiane Ferral-Schul, présidente du Conseil national des barreaux et porte-parole de SOS Retraite, il y a encore une carte à jouer face au gouvernement.
Il y a beaucoup d'amendements, hein, des milliers d'amendements, mais il s'est passé beaucoup de choses en une semaine. Vous avez l'avis du Conseil d'État qui dit que la réforme sur le plan financier présente un certain nombre de lacunes, que ce n'est pas normal d'avoir une loi et des ordonnances. Sur ce point, on sait de quoi on parle parce que la réforme de la justice a été ça. Et le Conseil d'État dit que ça manque de sécurité juridique.
Dans le cortège cet après-midi, beaucoup de jeunes avocats, parfois précaires, ils redoutent de perdre une partie de leur clientèle avec le doublement de leur cotisation. Myriam Guénim exerce à Bagnolet.
Nous, en Seine-Saint-Denis, il y a 70% des gens qui sont éligibles à l'aide juridictionnelle, donc le fait que l'État leur paye un avocat. Et si cette réforme passe, ça veut dire que des tas de confrères qui assument cette mission de service public devront fermer leur cabinet, parce qu'avoir un doublement de ces cotisations, ça va créer une précarité chez un certain nombre d'entre nous, et que les gens les plus défavorisés ne bénéficieront pas d'avocats. C'est pour ça qu'on se bat, c'est pour eux aussi.
Les syndicats d'avocats ont rendez-vous avec Édouard Philippe demain soir, un rendez-vous très attendu car maintes fois reporté.
Pauline Renoir. À Radio France, la grève est suspendue. La CGT, syndicat majoritaire, reconduisait le mouvement depuis le 25 novembre. Il s'est donc étendu sur 63 jours, une durée inédite pour l'entreprise. La décision de suspendre la grève a été prise à la mi-journée en Assemblée Générale. Bonsoir Éric Chavroux.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
La CGT se dit maintenant particulièrement attentive aux négociations qui viennent d'être lancées avec la direction et elle évoque un possible rebondissement en mars, Éric. En mars.
Ils étaient près d'une centaine réunis pour aboutir à la suspension d'un mouvement qui s'essoufflait singulièrement.
Donc 25 pour, 16 contre et 29 abstentions. Tout le monde connaît les règles de la démocratie. La grève est suspendue ce soir et on se donne rendez-vous sans doute à l'AG de mardi.
Une assemblée générale promise chaque semaine est la perspective d'une nouvelle action pour l'échéance des municipales et des négociations lancées la semaine dernière. Bertrand Durand est membre du bureau de la CGT Radio France.
Là, on était dans l'acte 1 de la grève. Le fait que quatre organisations syndicales se sont engagées dans une négociation pour éventuellement aboutir à une rupture conventionnelle collective fait que nous ne pouvons pas être en dehors de cette négociation, ne serait-ce que pour une attitude de vigie. Le terme de cette négociation est fixé au 20 mars a priori. D'ici là, si on voit que à la mi-mars, la négociation prend une tournure qui ne nous convient pas, si tous les postes ne sont pas remplacés par un élargissement du nombre de départs volontaires, nous entamerons l'acte 2.
Le plan de départ volontaire n'est que suspendu, souligne le syndicat majoritaire qui se réjouit d'avoir ébranlé la direction et la tutelle par son mouvement inédit. Pour la première fois, le ministre de la Culture, Franck Riester, a d'ailleurs fini par recevoir syndicat et direction vendredi, promettant d'accompagner financièrement les départs. Il est désormais question de 300 départs volontaires, dont 100 remplacés, et de 190 emplois en moins en 2022. Peu avant cette Assemblée Générale, la directrice des ressources humaines de Radio France a, elle, acté par mail le début des négociations avec, je cite, « la volonté forte de parvenir au meilleur accord possible ».
Éric Chavroux, ce début d'année 2020 est difficile pour le marché automobile français. Les immatriculations de voitures particulières neuves ont diminué de plus de 13% en janvier. Alors ça n'est pas vraiment une surprise, Hakim Kasmi, après la mise en place de nouvelles normes anti-pollution.
Oui, résultat, les véhicules qui s'en sortent le mieux sont les petits modèles moins polluants comme la 208, la Clio ou encore la Zoé qui, elle, est toute électrique. La Zoé qui s'en sort très très bien puisqu'elle n'a jamais connu des ventes aussi fortes en arrivant en troisième position. Contrairement aux grosses berlines allemandes ou aux SUV, ces 4x4 de ville, très consommateurs de carburant et donc très polluants et donc moins propres pour la planète. François Roudier, le porte-parole du CCFA, le comité des constructeurs français de l'automobile.
Vous avez un effet d'entrée de la nouvelle norme dite des 95 grammes de CO2 par kilomètre que chaque constructeur doit respecter au niveau européen, donc tous les marchés européens. Et tout ça a poussé les constructeurs à sortir de leur gamme les moteurs qui émettaient trop de CO2 et à pousser les immatriculations de véhicules électrifiés, donc électriques ou hybrides rechargeables, sur le mois de janvier et donc toute cette année 2020.
Autre signe d'inquiétude pour François Roudier, la division par deux du bonus écologique pour les véhicules tout électriques destinés aux entreprises et aux flottes, qui représentent la moitié des ventes de voitures neuves, ce qui aura des conséquences sur l'environnement selon lui.
C'est une catastrophe parce que ça va diminuer le nombre de ces véhicules électrifiés pris par les entreprises. Donc in fine, ça diminue le nombre de ces véhicules qui arriveront chez les particuliers et qui feront vraiment baisser le CO2 du parc. Donc c'était une mesure qui était vraiment anti-écologique.
Face aux normes environnementales qui doivent encore se durcir dans l'Union européenne dans les prochaines années, les constructeurs commencent déjà à réduire la production et la sortie de leurs gros modèles type SUV ou grosses berlines sous peine de devoir payer de très fortes amendes.
Hakim Kasmi. Les discussions s'ouvriront formellement début mars, mais le Royaume-Uni et l'Union européenne savent qu'il n'y a pas une minute à perdre s'ils veulent se mettre d'accord d'ici 11 mois. Il s'agit de définir la future relation entre Londres et ses partenaires européens à l'issue de la période de transition post-Brexit. Et à chacun ses priorités, les 27 veulent que le Royaume-Uni reste le plus proche possible des normes et des réglementations européennes. Mais ça n'est pas du tout le point de vue des Britanniques, Antoine Gignot.
L'harmonisation des règles et des normes, Boris Johnson ne veut pas en entendre parler, pas plus que de la Cour de justice européenne. Pour ne pas inquiéter Bruxelles, le Premier ministre britannique promet qu'il ne va pas se lancer dans un dumping social ou dans une concurrence déloyale. Il réclame un accord purement commercial sur le modèle de celui qu'a signé le Canada.
There is no need for a free trade agreement Il n'y a aucune raison qu'un accord de libre-échange nous oblige à accepter les règles européennes sur la compétition, les subventions, la protection sociale et environnementale ou quoi que ce soit de ce genre. Et l'Union européenne n'est pas non plus obligée d'accepter les règles britanniques. Le Royaume-Uni maintiendra les plus hauts standards dans ces domaines-là, sans y être forcé par un traité.
Et pour appuyer sa démonstration, Boris Johnson explique que les normes britanniques sont déjà au-dessus des standards européens sur de nombreux sujets. La durée du congé maternité et paternité, le salaire minimum plus élevé que dans la majorité des pays de l'Union, et l'environnement avec l'objectif zéro émission et l'interdiction des plastiques à usage unique. En parallèle, le Premier ministre se dit prêt à signer un accord sur la pêche en ouvrant l'accès à ses eaux territoriales aux bateaux européens, à condition qu'il y ait des quotas rediscutés chaque année.
Emmanuel Macron effectue sa première visite officielle en Pologne. L'occasion, espère le chef de l'État, de réchauffer les relations entre Paris et Varsovie. Relations très fraîches depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 du PiS, parti conservateur nationaliste, Louise Baudet.
Effectivement, c'est un virage à 180 degrés, un tournant mot-clé de cette première journée.
Je suis profondément convaincue que la visite du président français constitue un véritable tournant dans nos relations.
Je souhaite que cette visite marque un véritable tournant dans le rôle qu'ensemble nous pouvons jouer pour l'Europe demain.
Oubliez les violentes passes d'armes sur le climat, les migrants, les travailleurs détachés. Dans une Europe bouleversée par le Brexit qui renforce le poids de la France mais aussi de la Pologne, les deux pays doivent s'entendre, quitte à déléguer à d'autres les sujets qui fâchent. En l'occurrence, les attaques répétées contre l'état de droit qui valent à Varsovie les remontrances de l'Europe.
J'ai évoqué à ce titre avec le président Duda les préoccupations que suscitent les réformes de la justice qui sont en cours. Je souhaite à ce titre que le dialogue avec la Commission européenne s'intensifie dans les prochaines semaines. Car je sais qu'en Pologne, dans son histoire, sont ancrées ces valeurs de liberté et de justice.
On a connu le président français plus incisif sur le sujet, mais l'heure est à la levée des difficultés, des malentendus entre les deux pays qui ont tant à faire ensemble sur la cybersécurité, le nucléaire, l'agriculture ou la défense. Quant au rapprochement avec la Russie qui inquiète les Polonais, Emmanuel Macron se veut rassurant.
La France n'est ni pro-russe, ni anti-russe. Elle est pro-européenne. Je n'ai absolument aucune naïveté, mais je sais que dans l'intérêt de la sécurité de l'Europe, de la France comme de la Pologne, nous devons avoir un dialogue politique exigeant avec la Russie.
Enfin, loin d'être en marge, la Pologne doit se vivre comme un grand pays européen, dira demain Emmanuel Macron aux étudiants de Cracovie. Façon d'en finir avec le procès en arrogance qui perdure ici contre les Français en général et leur président en particulier.
Louise Baudet, notre envoyée spéciale à Varsovie, avec Georges Thau à la technique. Et pourquoi faut-il s'intéresser à la Pologne? C'est la question qui sera abordée par Emmanuel Laurentin et ses invités dans le temps du débat à 18h20. Aux États-Unis, c'est le coup d'envoi des primaires démocrates. Depuis des mois, candidats comme électeurs appellent avant tout à battre Trump. Le 3 novembre, 11 candidats sont encore en course pour l'investiture. Premier vote ce soir dans le petit état rural de l'Iowa. Vous êtes à Des Moines, Grégory Phillips, et la pression monte.
Oui, à 19h heure locale, tard pour vous, les sympathisants démocrates vont commencer à se rassembler dans des gymnases, des écoles ou des églises pour participer à ces 1700 caucus. Vous connaissez le principe, les électeurs votent en se massant dans un coin ou l'autre de la pièce en fonction de son candidat. Et puis à la fin, on compte le nombre de participants et ça désigne celle ou celui qui décroche le plus de délégués et qui l'emporte. Alors oui, la pression monte parce que c'est un moment crucial pour les 11 candidats démocrates encore en lice. L'Iowa, c'est un tout petit État qui compte assez peu d'habitants et qui compte assez peu dans la désignation du candidat investi, mais comme c'est l'État qui vote le premier, eh bien évidemment ça lui confère une importance un peu démesurée. C'est pour ça que Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren et les autres déploient énormément de forces et de moyens ici dans ces plaines enneigées pour arriver en tête. Alors il faut noter que cette année, il y a énormément d'indécis parmi les sympathisants démocrates, avec deux questions. D'abord, qui est le plus à même de battre Trump le 3 novembre? Ensuite, quelle stratégie adopter, un Sanders ou une Warren à la gauche du parti ou bien un centriste plus rassembleur comme Biden ou Buttigieg, tellement d'incertitudes que les résultats consolidés ne seront pas connus avant sans doute tard ce soir, c'est-à-dire demain matin pour vous.
Grégory Phillips en direct de Des Moines dans l'Iowa. La crise du coronavirus relance les tensions entre la Chine et les États-Unis. Pékin accuse Washington de créer et semer la panique. Les États-Unis ont en effet interdit leur territoire aux étrangers en provenance de Chine et ils recommandent à leurs ressortissants de ne pas s'y rendre. De quoi crisper à nouveau les relations entre les deux puissances après une courte période de réchauffement diplomatique, Olivier Poujade.
Les mesures sanitaires radicales initiées selon Pékin par Washington auront très vite de lourdes conséquences sur l'économie chinoise. L'isolement progressif du territoire, les fermetures temporaires d'usines ou de magasins annoncées par les firmes étrangères, Apple, Renault, Ikea, tout cela précipite le ralentissement de l'activité du pays. Le secteur manufacturier est à son rythme le plus bas depuis 5 mois. Les bourses chinoises ont brutalement chuté ce matin de près de 9% malgré la décision ce week-end de la Banque centrale chinoise d'injecter plus de 150 milliards d'euros pour contrer l'impact de l'épidémie. Pékin a beaucoup de mal à rassurer le reste du monde, considère que Washington a contribué à semer la panique et certains experts s'interrogent aujourd'hui sur la volonté ou l'aptitude même de la Chine à honorer dans les prochaines semaines les accords commerciaux récemment signés avec les États-Unis. À partir du 14 février, les autorités chinoises se sont engagées à acheter 200 milliards de dollars de biens américains sur 2 ans. La question se pose désormais de savoir si ce contrat fera toujours partie des priorités du gouvernement de Xi Jinping dans 10 jours.
Le bilan de l'épidémie est maintenant de 361 morts en Chine continentale. Plus de 17 000 personnes ont été contaminées. Le congé de paternité va-t-il se développer au Japon? Le ministre japonais de l'Environnement a récemment annoncé qu'il allait en prendre un lui-même, décision inédite au sein du gouvernement. Cette démarche lui vaut des critiques acerbes de la part de conservateurs, même si Shinjiro Koizumi a précisé qu'il prendrait son congé à petite dose en répartissant les 2 semaines prévues sur 3 mois. Au Japon, il est en effet mal vu de délaisser le travail au profit d'une cause personnelle et ça ne vaut pas que pour les ministres, Karine Nishimura.
Sur 100 nouveaux papas japonais, seulement 6 prennent un congé de paternité. Et pour 5 d'entre eux, ce congé ne dépasse pas 2 semaines. C'est dire si en ayant pris 3 semaines pour la naissance de son 2e enfant, M. Nakawe est une exception.
Pour le premier, je n'ai pas pu prendre de congé et cela m'a attristé de voir qu'il n'était pas très attaché à moi. Du coup, pour le deuxième, j'ai décidé de prendre au moins le temps nécessaire pour que ma femme se remette de l'accouchement. Mais c'est vrai que d'un point de vue financier, même s'il a une allocation qui couvre 67% du salaire, le congé peut être un peu handicapant.
Dans un pays où les congés payés ne sont encore qu'à moitié prix et le reste perdu, s'absenter de son travail à la naissance d'un enfant quand on est un homme reste une démarche encore mal comprise. Seiji Nakakura est consultant spécialisé dans l'amélioration des conditions de travail.
Au Japon, les personnes haut placées dans la hiérarchie, les chefs, ont souvent plus de 50 ou 60 ans. Même si c'est un peu insolent de le dire, cette génération d'hommes ne comprend pas. Seule une infime partie des entreprises pousse la prise de congé paternité. De manière générale, la réaction est plutôt que c'est embêtant que quelqu'un s'absente. Les patrons, les chefs, les cadres sont encore nombreux à se demander comment ils vont faire si même les salariés hommes prennent des congés parentaux. Dans un tel contexte, il n'est pas facile pour les jeunes de prendre un congé, même s'ils en ont envie.
Pourtant, la loi, elle, ne fait pas de différence entre hommes et femmes. Le régime de prise de congé parental est le même pour tous, souligne-t-on au ministère japonais du Travail et de la Santé.
Le dispositif de congé parental existe depuis 1992, tant pour les hommes que pour les femmes. Depuis cette époque, le père ou la mère peut prendre jusqu'à 1 an. Mais il est vrai que, comme le salaire des pères est généralement plus élevé et que le rôle de l'homme au sein des foyers est souvent de répondre aux besoins financiers de la famille, quand on décide qui des deux prend le congé, c'est plus souvent la mère qui reste à la maison s'occuper du bébé et le père qui travaille à l'extérieur. Cette façon de penser perdure.
Et les femmes, elles, qu'en pensent-elles? Mia est une jeune salariée de 37 ans, sans enfant, mais qui a un avis clair sur le congé parental.
Je pense que cette sorte de discrimination de qui, entre la femme ou le mari, prend un congé n'est pas un débat de notre temps. Il faut réfléchir autrement au partage des tâches. Les femmes aujourd'hui font carrière et gagnent parfois plus que leur mari. Leur façon de travailler n'a plus rien à voir avec celle d'autrefois. On ne doit plus établir de différence entre hommes et femmes.
Le fait qu'un politicien jeune et populaire entre au gouvernement et devienne papa durant son mandat, ce qui n'est jamais arrivé compte tenu de l'âge généralement avancé des ministres, a le mérite de déchaîner les médias. Mais de là à révolutionner d'un coup la société nippone, personne n'y croit vraiment.
Karine Nishimura à Tokyo pour France Culture. Le temps sera variable demain avec quelques averses. La Corse est placée pour la journée en vigilance orange au vent violent. Les températures vont baisser. Il fera 2 à 10 degrés au lever du jour. Température maximale de 6 à 14 en général, de 12 à 17 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.